Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une heure d'entretien, car chaque soir, par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure. Ce soir, c'est avec Frédéric Pajac.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Quel est ce poète, reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands, qui a construit sa vie sur le plus étrange paradoxe, écrire de la poésie, sans la publier, sans jamais proclamer son statut de poète aux yeux du monde, se contentant de lui adresser une lettre, son œuvre, sans savoir quand celui-ci en briserait le cachet pour la lire, ni même s'il le briserait un jour. Ce poète dont la voix ne nous parvient dans sa vérité que plus d'un siècle après sa mort, après avoir traversé des tunnels de silence, des murailles d'incompréhension, ou, ce qui est presque pire, de malentendu, quel est-il ? À cette question que pose Claire Malroux dans sa préface au quatrain d'Emily Dickinson, traduit par elle et publié aux éditions Gallimard, vous ajoutez une question en écho, Frédéric Pajac, pour le 7e tome du Manifeste incertain, publié lui aux éditions Noir sur Blanc. Quelle est-elle, cette poétesse, russe celle-ci, de toutes les intensités de la soif, Marina Tsvetaeva ? Les deux femmes, leur écriture, leur vie, peuplent un livre où dessins et textes se complètent et plus. Bonsoir Frédéric Pajac, bienvenue.
Bonsoir.
Je dis que c'est le 7e tome de ce Manifeste incertain, cela suppose qu'il y en a 6 avant celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la genèse de ce grand projet ?
L'idée au départ c'était de faire un livre sans fin. Et donc je suis allé voir mon éditrice, Vera Michalski. Je lui ai dit voilà, j'aimerais faire un livre sans fin. Elle m'a dit c'est une bonne idée. Et donc j'ai commencé, et en fait je me suis aperçu que... Enfin j'ai dit que ce serait un livre sans fin, mais dont un volume paraîtrait chaque année. D'ailleurs volume, c'est pas le bon mot, puisque ça s'appelle volume, mais puisque c'est un livre sans fin, il n'y a pas de volume.
C'est un seul livre.
Voilà, quoi. C'est un morceau du livre, c'est un chapitre en fait, un grand chapitre. Mais assez rapidement, je me suis aperçu que c'est un travail colossal, et surtout les dessins, enfin les dessins et la lecture, parce que pour faire un livre, par exemple celui-ci sur Marina Tsvetaeva et Emily Dickinson, je dois tout lire, tout ce qui est en tout cas traduit en français, parce que je parle ni le russe ni l'anglais. Donc tout lire, ça veut dire des milliers de pages, parce que on a beaucoup publié, notamment récemment, Tsvetaeva. Les éditions Sirt ont fait vraiment un travail considérable. Donc ça représente pour moi, au fond, un travail presque à plein temps.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que ce livre sans fin représentait au moment où vous décidez de l'entreprendre ? Qu'est-ce que ça voulait dire, cette idée-là, de vouloir faire un livre qui ne finit pas, Frédéric Pajac ?
J'avais envie aussi d'avoir comme un rendez-vous avec mes lecteurs, un rendez-vous chaque année. Parce que plus jeune, quand j'ai commencé à faire des livres, j'en ai fait aussi un par an. Et puis je me suis aperçu que c'était... Après j'ai arrêté, j'ai publié des livres à plus longue distance, et je me suis aperçu que c'était une mauvaise idée en fait. Que je crois que quand on écrit et dessine, on entretient une relation très particulière avec des lecteurs. On les connaît en fait, ces lecteurs. On finit par les connaître. Et puis c'est important que... Pour moi c'était important d'avoir ce rendez-vous en fait.
Et le fait de dire qu'il serait sans fin, ça voudrait dire que ce rendez-vous serait sans fin, que vous auriez perpétuellement rendez-vous avec ces lectrices et ces lecteurs.
Voilà, exactement. Et puis, mais c'est vrai que c'est aussi cette idée que quand on croit avoir terminé un livre, finalement, il n'est pas terminé.
Mais ça vaut pour tous les livres, d'une certaine manière.
Je pense que ça vaut pour tous les livres. Et c'est vrai qu'il y a... Souvent, les auteurs sont assez frustrés d'avoir terminé un livre. Ils sont non seulement frustrés, mais ils ont des doutes, beaucoup d'incertitudes sur ce qu'ils ont fait. et l'idée qu'au fond, finalement, ça n'a pas d'importance parce que ça continue, c'est assez agréable.
Et rassurant. Néanmoins, vous avez plusieurs fois raconté que ce livre sans fin aurait une fin, puisqu'il plane le tome numéro 9 comme une sorte de conclusion. Pourquoi ?
Parce que l'idée de finir quelque chose est aussi excitante que celle de commencer. Et finir, ça, au fond, c'est comme un entonnoir. Donc, je sais que j'arrive au bout de l'entonnoir.
Donc, ça, en gros, vous manipulez quand même de nombreux paradoxes, parce qu'à la fois, le désir de faire un livre sans fin vous anime, Frédéric Pajac. Le désir d'arriver à sa fin vous réjouit. Donc, voilà, les deux choses. Et puis, par ailleurs, vous appelez ça manifeste et incertain. Si on s'attarde un petit peu sur le titre de ce grand projet littéraire et dessiné, il nous dit quoi ? Ou il vous dit quoi ?
Ben, comme vous l'avez dit, que je suis très paradoxal et vraiment bourré de contradictions. Et je pense que les contradictions sont importantes. Je crois pas que. Enfin, moi, j'ai pas envie de faire un livre lisse ou. Voilà. Donc, j'aime bien les paradoxes. C'est vrai que le titre est un oxymore et c'est. C'est un titre qui m'a habité depuis toujours parce que j'avais 18 ans quand à l'époque je travaillais dans les trains en Italie pendant les années de plomb et puis je voyais des certitudes, je voyais des certitudes partout, gauchistes, fascistes, libérales déjà, et puis au fond moi j'ai jamais été sensible à ces idéologies. J'ai jamais adhéré à ces idéologies, mais d'aucune façon. Et donc, pour moi, l'incertitude était le mot manifeste incertain. Je me souviens, il a surgi dans un train à 3h du matin entre Florence et Rome. Et puis, je me suis dit, mais c'est ma vie.
Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, sans être attiré ni convaincu par des idéologies qui sont fermées, comme ça, qui sont totales, il y a quelque chose dans l'idée du manifeste qui tout de même vous intéresse.
Oui, bah c'est l'idée d'affirmer quelque chose, y compris des paradoxes.
Et l'incertitude dont il est question, à la fois échapper donc à des idéologies, des choses fermées, mais aussi, est-ce que ça qualifierait de manière générale votre rapport au travail, au texte, au dessin, Frédéric Pajac, et où à l'existence? Est-ce qu'il y a quelque chose de cette incertitude, voire de cette inquiétude, on va en parler avec Dickinson et Tsvetaeva, qui dit quelque chose aussi de votre entreprise artistique?
L'incertitude, je crois que tout le monde est dans l'incertitude, mais il faut le savoir et il faut le vouloir aussi. Donc, pour moi, c'est une certitude que je suis dans l'incertitude.
Et pour finir de présenter ce grand projet avec vous, est-ce que vous nous parleriez des précédents tomes, ou volumes, ou chapitres de ce manifeste incertain, par exemple, en nous disant qui y était invité?
Je dis souvent que mes livres sont des livres de lecteurs, c'est-à-dire que ce sont souvent des auteurs, je parle d'auteurs que j'ai lus très jeunes et que je n'ai pas compris. Ça commence par Walter Benjamin, que j'ai lu, je pense, à l'âge de 20 ans. Et Walter Benjamin étant un auteur assez difficile, voire obscur, je ne dis pas que j'ai fait semblant de le comprendre, mais j'ai cru comprendre quelque chose. Et en réalité, 40 ans après... je me suis aperçu que j'avais vraiment rien compris. Et ça vaut pour presque tous les auteurs dont je parle, ou dont j'ai parlé. À commencer par Nietzsche, que j'ai lu très jeune aussi, sans vraiment le comprendre. Et donc, dans ces premiers manifestes, j'ai commencé tout de suite par Walter Benjamin, en fait. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est pas une véritable décision. Il est venu comme ça, et puis je savais pas que j'allais faire finalement 3 volumes en parlant abondamment de lui jusqu'à son suicide. Et puis, évidemment, dans les manifestes, je parle pas seulement d'un auteur, mais je parle de plusieurs auteurs. C'est-à-dire que j'entrecroise des destins, et puis aussi c'est une manière de parler d'une époque dans le fond, et
voire de paysages
aussi, mais l'époque, en fait j'ai pas fait exprès, mais cette époque qui est l'entre-deux-guerres ou juste le début de la guerre, la deuxième guerre, finalement, il se retrouve, mais vraiment, c'est un pur hasard. C'est-à-dire, il se retrouve avec Walter Benjamin, qui en 33 quitte Berlin, etc. Il se retrouve avec Ezra Pound, qui est aussi, lui, fasciste, qui adhère au fascisme. Je ne sais pas s'il est fasciste, c'est un poète, mais il a adhéré au fascisme. Et puis maintenant, Marina Tsvetaeva, qui est vraiment la contemporaine aussi de et c'est d'ailleurs étonnant que ces gens, je parle de ces trois, par exemple, ne se sont pas croisés, quoi. Et je parle aussi d'André Breton, je parle de Nadja, je parle de, donc, alors, il y a un manifeste qui est particulier, qui est le cinquième, qui est consacré, alors, uniquement, qui n'a rien d'autobiographique, qui est consacré uniquement à Van Gogh. Et, en fait, ça s'est imposé comme ça. Je pensais pouvoir dire des choses personnelles, raconter un peu ma vie à travers ces tableaux. Mais finalement, je suis resté totalement à distance et je me suis plongé dans le destin de Van Gogh.
Quoi, c'est le seul qui a résisté à la manière dont vous entremêlez par ailleurs Frédéric Pajac, et on va l'entendre dans un instant, votre propre récit biographique avec tout ce que vous accumulez comme lecture, comme savoir et comme rapport sensible avec les auteurs que vous invitez dans ce manifeste-là. C'est le seul qui a opposé une porte fermée.
Oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Finalement,
la peinture, peut-être.
C'est peut-être aussi parce que j'avais l'impression, j'ai lu encore une fois beaucoup de livres sur Van Gogh, qui m'ont beaucoup déçu en fait, parce que cette image du fou, de l'exalté, moi me convient pas du tout, et même en lisant attentivement ses lettres, en les relisant, les lettres à son frère ou à sa sœur, à sa mère, mais je me suis aperçu que d'abord c'était un homme très cultivé.
L'un n'empêche pas l'autre.
Qui parlait.
Oui, la folie mais, peut côtoyer la culture.
Oui, mais la culture peut aussi calmer. Qui parlait quatre langues, qui connaissait la philosophie anglaise, allemande, qui lisait tous les grands écrivains français, ses contemporains, qui avait une connaissance de l'histoire de l'art et qui savait qu'il ferait partie de l'histoire de l'art. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment troublé et qui n'est pas si connu. C'est-à-dire qu'il savait qu'il était un maillon de l'histoire de l'art.
C'est marrant parce que vous écrivez des choses totalement similaires pour Emily Dickinson et Marina Tsvetaeva, absolument convaincues de leur place dans l'art poétique.
Voilà, et c'est quelque chose qui est troublant, qu'ils ont en commun, que ces personnages ont en commun. Je veux préciser les choses parce que Van Gogh a vendu un tableau de son vivant. Donc c'est très difficile de croire en son destin quand on vend qu'un tableau et qu'on est totalement incompris. C'est à peu près la même chose pour Emily Dickinson. Et c'est un miracle d'ailleurs, un peu comme Kafka, parce que Emily Dickinson voulait brûler tous ses poèmes. Et c'est sa sœur qui l'en a empêché. Mais c'est un miracle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est inimaginable. Enfin, que finalement, c'est Emily Dickinson est traduite dans le monde entier, elle est lue partout, cette femme qui n'a publié que 10 poèmes dans un journal local. Et un peu la même chose avec Marina Tsvetaeva, qui a été interdite, qui a disparu de la littérature officielle soviétique, et qui était finalement en France pratiquement mise à l'écart. Hein. Elle a d'ailleurs vécu au même moment le même destin que Walter Benjamin à Paris. C'est-à-dire que et Walter Benjamin venant d'Allemagne, lui cherchant à rentrer dans le surréalisme, à rencontrer Breton, à être reconnu, finalement est resté totalement isolé. Seule, vraiment une grande solitude, et Marina Tsvetaeva, au fond, n'a eu aucun contact pratiquement avec les littérateurs français et les responsables les éditeurs et tout ça. Donc elle est restée, au fond, une inconnue absolue.
Et là encore, elles sont des choses sur lesquelles on reviendra au cours de cette heure avec vous, Frédéric Pajac, mais tous ces gens dont vous décrivez la grande solitude ont essaimé tout de même leur pensée et, dans le cas des deux personnes qui nous occupent aujourd'hui, leur poésie, par biais de correspondance. Parce que si quelques seulement poèmes ont été édités du vivant Dickinson, Dieu sait si elle en a fait circuler par d'autres moyens, mais on entre de ce pas dans le manifeste, un certain tome 7.
C'est loin. Je dois avoir 5 ou 6 ans. La maîtresse d'école nous demande d'imaginer un poème, de le composer avec des caractères en caoutchouc et de l'accompagner d'un dessin gravé dans le linoléum. Le tout devant être assemblé en une plaquette imprimée à quelques exemplaires. J'écris à propos d'une baleine qui, en souriant, montre ses dents en chocolat. Des mots. Oui, mais une image avant tout, ni réfléchie ni ruminée, qui associe spontanément ma sympathie pour le grand mammifère marin et mon goût pour les friandises. Les premières poésies que nous apprenons sont des chansons. Je m'en souviens. Chante, rossignol chante, toi qui as le cœur gai, tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Le bonheur de chanter en chœur surpasse le plaisir des mots. Sauf peut-être quand les mots racontent des chagrins d'amour sur le tourne-disque de mes parents. Alors la musique se met en sourdine, se fait moins rythmée, moins sautillante, et c'est au violon de mettre à nu la douleur des paroles et l'émotion d'une voix.
Romain de Bec de Lièvre lit pour nous le début de ce manifeste incertain, Frédéric Pajac. Est-ce qu'il faut voir dans ce premier souvenir que vous partagez avec nous, avec vos lectrices et vos lecteurs, ce qui vous a mis sur la piste de ces deux poétesses, votre propre rapport à la poésie et ce souvenir d'enfance où on vous le transmettait d'une manière ou d'une autre, rossignol ou pas?
C'est compliqué parce que on a... Je crois que la plupart des enfants voient la poésie comme une corvée. Alors moi, j'ai eu la chance, quand j'ai fait ce petit imprimé, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une maîtresse d'école qui était, toi, qui nous a stimulés. Mais là, j'avais 5-6 ans, je ne sais pas quel âge exactement. Mais après, quand on... Plus on grandit, et plus la poésie devient difficile à apprendre par cœur. Et c'est un peu une corvée, quand même, d'apprendre la poésie par cœur. Mais c'est paradoxal, parce que c'est une corvée, et aussi de la réciter devant tous ses camarades. C'est une corvée, mais c'est aussi, au fond, des années plus tard, on s'aperçoit que c'est un immense plaisir. Je pense à des... aux poèmes que j'apprenais par cœur, de Dubellay, par exemple, de Victor Hugo, etc., qui étaient vraiment ardus. Il fallait chercher où s'accrocher pour pouvoir mémoriser. C'était assez compliqué, parce qu'on ne comprenait pas forcément tous les mots, d'ailleurs, et les images. Mais au fond, cette sensation, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle se transforme dans la vie. C'est-à-dire que là où c'était une punition, ça devient un plaisir. Ce plaisir, il devient immense 40, 50 ans plus tard.
Aussi parce qu'il gagne en sens ?
Oui, il gagne en sens, bien sûr. Et puis, moi j'ai fait un livre qui s'appelle « Chagrin d'amour » consacré à Apollinaire. En grande partie à Apollinaire, qui est consacré au chagrin d'amour, au sentiment de chagrin d'amour, mais aussi à Apollinaire. Et Apollinaire, c'est quelqu'un que j'ai lu beaucoup plus tardivement, vers 16-17 ans. Et je dois dire que j'ai rien compris, encore une fois. Et parce que c'est très compliqué, Apollinaire, finalement. Je pense à la chanson du Mal-aimé, évidemment. Je ne pense pas au Pont Mirabeau, mais la chanson du Mal-aimé est un texte qui est obscur, qui est plein de références autobiographiques. Et d'ailleurs, j'ai assez vite compris que si je voulais comprendre un auteur... il fallait que j'entre dans sa vie, dans sa biographie.
En tout cas, c'est clairement le chemin que vous faites dans le manifeste
oui,
incertain.
Et dans tous mes livres, je crois que j'ai toujours fait ça. C'est ma façon de comprendre et de transmettre ce que j'ai compris. Mais c'est aussi rentrer dans la vie d'un auteur, c'est aussi rentrer dans son paysage. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que, notamment dans le manifeste, partout où ont vécu ces auteurs ou ces artistes, je m'y rends. Je vais là, par exemple, pour Tsetaeva, j'ai fait un grand voyage en Russie, mais vraiment un grand voyage considérable pour être partout où elle a vécu, où elle a grandi, jusqu'à son suicide à Yalabouga.
Mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé pour Emily Dickinson, qui est l'autre face de ce septième tome. Mais on y va par la pensée dans ce village avec une archive.
Dans sa fameuse lettre du voyant, datée de 1871, Arthur Rimbaud écrivait « Quand sera brisé l'infini servage de la femme, elle sera poète elle aussi. Elle trouvera de l'inconnu, Des choses étranges, insondables, délicieuses. Nous les comprendrons. Au moment même où il formulait cette prophétie, elle était déjà accomplie. Car dans un petit village de la Nouvelle-Angleterre, tout près de Boston, vivait, aussi inconnu des milieux littéraires que de ses propres voisins, l'un des plus extraordinaires poètes de tous les temps, Emily Dickinson. Comme Ralph Waldo Emerson et comme Walt Whitman, elle descendait selon la chair et selon l'esprit des grands puritains, des fondateurs taciturnes de la Nouvelle-Amérique. Une légende romanesque d'un amour malheureux courait sur elle dans le village d'Amherst. Mais, à vrai dire, depuis tant d'années, elle n'avait franchi son seuil que les voisins avaient un peu oublié son visage. Seuls les enfants du quartier la connaissaient, car à certaines heures, sa fenêtre s'ouvrait mystérieusement, et des dons extraordinaires en descendaient par un savant mécanisme de poulies et de paniers. La prodigalité et le secret, voici les indices de cette vie assez singulière.
Des indices pour évoquer Emily Dickinson et peut-être que cela en fait, que des petits indices. 1951, c'est une archive de la radiodiffusion française et c'est Christian Murcrot qui évoque différentes légendes autour de cette figure-là. Vous êtes rentré, vous disiez, Frédéric Pajac, à la fois par l'œuvre et par sa vie, mais quoi en premier ? Est-ce que vous êtes frotté à ces légendes-là, à la femme qu'elle était dans ce village, à ce qu'elle ne laissait pas paraître, à ce qu'elle laissait ou à ce qu'on disait sur elle ?
Au fond, Emily Dickinson, c'est une phrase dans sa correspondance qui a fait que je suis vraiment intéressé à elle il y a déjà une trentaine d'années. Et j'ai pensé un jour faire un livre en partie sur elle. Et à la même époque, j'ai découvert que c'était Eva. Mais cette phrase, elle répondait à un juge qui était un ami de son père et dont elle était amoureuse. Et probablement, elle a eu une liaison avec lui. Il avait à peu près l'âge de son père, un petit peu plus jeune. Mais il lui a demandé sa main et elle lui a répondu « Mon pauvre ami, vous me demandez l'ami, vous n'aurez que la croûte ». Et en fait, cette phrase, je l'ai trouvée tellement extraordinaire, à la fois drôle et tellement réaliste. Que,
cruel aussi.
Cruel, bien sûr. Et au fond, c'est comme ça que je suis rentré dans la poésie d'Emily Dickinson.
Par son refus, son refus à l'amour, son refus au monde, d'une certaine manière. Ouais. C'est-à-dire dire aussi, au monde, je n'offrirai rien de ma très grande intériorité.
Alors, c'est vrai qu'en plus, si vous parlez d'intériorité, écrire sur Dickinson, c'est pratiquement impossible, parce que d'abord, sa vie est réduite, elle est vraiment elle est chez elle, dans sa chambre, elle passe sa vie dans sa chambre, et donc elle ne voyage pratiquement pas, elle va une fois à Washington, enfin, c'est le contraire de Tsvetaeva. Tsvetaeva, elle s'exile, elle part en Allemagne, elle part longtemps en Tchécoslovaquie, puis en France.
Néanmoins, vous les réunissez autour d'une table.
Oui.
Et pas seulement, je veux dire, pas seulement, c'est pas pour moi une métaphore de dire vous les réunissez autour d'une table dans ce livre-là, mais vous réunissez aussi ces deux femmes autour de la table du travail et la table d'écriture.
Parce que c'est quelque chose de... Je me suis aperçu quand, dans leur correspondance, quand elles parlent de cette table, au fond, c'est vraiment l'objet central. Mais ce n'est pas seulement un objet. C'est étonnant, la table, la place que prend la table dans leur existence. Alors, chez Dickinson, c'est une petite table de travail que son père lui a octroyée assez jeune, parce qu'elle a demandé à pouvoir écrire à son père, à écrire de la poésie. Elle lui a demandé l'autorisation de pouvoir écrire de la poésie. Et d'avoir une table. Et son père lui a donné cette table pour écrire. Et cette table et son compagnon, en fait, ou sa compagne, toute sa vie. C'est vraiment, elle est devant cette table. Et Tsetseyeva, elle est aussi devant cette table. Elle cherche toujours une table, d'ailleurs, quand elle est en exil. Mais cette table, elle est aussi la table, souvent, où elle épluche les légumes et où elle mange avec ses enfants et son mari. Donc, c'est en même temps la table de la corvée, parce que chez Tsetseyeva, la corvée ménagère prend une place folle, parce qu'en plus, je crois qu'elle est incapable de bien gérer son foyer, comme on dit. Et elle est assez maladroite, elle est assez désordonnée, elle est surtout très désordonnée. Elle a de la peine à construire un repas, par exemple. Et donc, cette table est à la fois la table du supplice et la table de l'évasion.
Et de l'extase, puisqu'il y a vraiment quelque chose de très fort aussi, hein, chez l'une et chez l'autre, dans leur rapport au poème et à cette forme d'exaltation. Pour Dickinson, vous dites très difficile d'écrire sur elle parce que d'une certaine manière, sa vie est assez, comment on pourrait dire, plus que sédentaire, très intérieure. Néanmoins, vous penchez sur sa correspondance et apparaissent deux figures importantes, Dickinson et Bowles. Vous disiez tout à l'heure, finalement, Frédéric Pajac, écrire sur tous ces gens qui peuplent et les manifestent incertains, c'est aussi écrire sur leur entourage, sur leur univers. Pourquoi est-ce que ces deux personnages-là ont une existence si pressante dans vos pages? Parce qu'ils l'ont dans la vie, peut-être, de
oui,
Dickinson.
Parce que c'est le seul lien avec l'extérieur. Parce
on va dire rapidement qui ils sont.
Alors, dites-le, parce que...
Non, vous.
Y en a un qui est journaliste. Et puis, enfin, surtout celui qui est important, c'est le juge. C'est quand même, le juge est central parce que c'est une relation amoureuse. Mais au fond, peu importe qui ils sont, parce que je pense qu'elle n'a pas de relation avec les gens. Elle a une relation avec le langage. Et d'ailleurs, ses lettres, contrairement à la correspondance de Tsetseyeva ou de d'autres auteurs, de Benjamin, etc. Souvent, de la correspondance, on a quelque chose de très clair, de limpide. Chez Dickinson, c'est presque pire que sa poésie. C'est-à-dire que c'est tellement obscur, tellement métaphorique. Et au fond, celui qui reçoit cette poésie n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de communication.
Ni d'adresse réelle.
Non, je pense pas. Alors que la plupart des correspondants s'expriment assez clairement, même peut-être plus clairement que dans leurs écrits. Si vous prenez par exemple James Joyce, sur lequel j'ai fait un livre aussi, James Joyce, on peut avoir beaucoup de difficultés à lire ses livres. Mais sa correspondance est tout à fait limpide. C'est vraiment le contraire chez Dickinson. France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux avec Frédéric Pajac.
D'un certain moment, quand elle a eu une trentaine d'années et qu'elle a décidé de se consacrer à la poésie, alors là, elle s'est carrément retranchée. Et je voudrais à ce propos donner cette citation de Mallarmé qui me paraît convenir tout à fait. Sait-on ce que c'est qu'écrire ? Une ancienne et très vague, mais jalouse pratique, dont gît le sens au mystère du cœur, qui l'accomplit intégralement, se retranche. Là est l'explication de ce retranchement. C'est un retranchement pour l'écriture. Mais ce n'est pas un retranchement qui est dû à des failles psychologiques ou à un refus du monde. Ce n'est pas une poésie qui a évolué d'une façon temporelle, si on peut dire. C'est une poésie qui, elle a constamment creusé, elle s'est enfoncée dans sa propre écriture, où ça me fait penser parfois aussi à un vol d'oiseaux qui tournoie éternellement autour des mêmes repères. Donc, ce qui explique qu'elle a pu peut-être écrire autant de poèmes en un laps de temps assez court.
C'est la voix de Claire Malroux en 1993 que je citais en introduction, Frédéric Pajac qui a à la fois préfacé et traduit cet opus des Quatrains et autres poèmes brefs publiés chez Gallimard et qui parle d'un vol d'oiseaux comme ça qui ne cesse de tourner, d'une poésie qui se creuse davantage qu'elle ne s'étalerait, qu'elle progresserait dans le temps. Et juste avant on entendait une chanson de Krotz Schröder qui a consacré 15 petites chansons au poème d'Emily Dickinson. Les oiseaux, ils sont présents, la nature est présente, évidemment dans ce manifestant certains au tome 7, dans vos dessins. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rapprocher, mais peut-être c'est trop acrobatique, hein, entre la forme du quatrain et la part de ces dessins qui occupent quasiment les deux tiers des pages, souvent Frédéric Pajac?
Je ne sais pas, ça je ne peux pas vous dire. En tout cas, la nature, elle est présente.
Extrêmement.
Oui, d'abord parce que le livre s'ouvre sur Emily Dickinson et qu'au fond, moi je ne savais pas quoi dessiner finalement, parce que voilà, on a un portrait d'elle, c'est quand même peu. On a sa maison, sa chambre, et donc je savais pas quoi dessiner. Elle a pas voyagé, encore une fois. Et puis je me suis dit finalement, les abeilles sont très présentes dans sa poésie.
Les fleurs aussi.
Les fleurs, les et les oiseaux. Mmh. Et donc j'ai dessiné une sorte de bestiaire, de petit bestiaire. En plus, c'est intéressant comme dessinateur de dessiner des abeilles qui sont jaunes et noires, mais de les dessiner en noir et blanc et qui se confondent presque avec les fleurs. Quand elles sont sur les fleurs, comme ça, on ne sait plus si ce sont des pétales ou si c'est le corps de l'abeille. Donc, il y avait quelque chose de... disons, graphiquement, d'assez passionnant pour moi. J'avais jamais dessiné d'abeilles. Mais la nature, elle est toujours présente parce que, d'abord, en ce qui concerne tout le passage sur Marina Tsetsaeva, qui est le passage le plus important, eh bien, c'est la Russie. Et la Russie, c'est la nature. Et puis, partout où je suis allé en Russie, sur les traces de Marina Tsetsaeva, j'étais dans la nature, soit dans la forêt, soit dans le bord de mer, en Crimée. Et donc, j'étais vraiment envahi par le paysage.
Et d'ailleurs, quand vous êtes en ville, vous écrivez aussi que très rapidement, la ville ne vous va pas. Presque comme vous parlez d'un vêtement, au moment où vous entreprenez ce grand voyage-là, dont on peut parler avec vous, Frédéric Pajac, on sent que les moments en ville ne sont pas des moments très très agréables dans cette sorte de grande enquête sur Tsvetaeva.
La ville, c'est des voitures. C'est ça qui est terrible. C'est que les villes sont des voitures. Quand on est à Moscou, je ne pensais pas que c'était une ville aussi grande, aussi impressionnante. Et en fait, c'est une ville avec des autoroutes à l'intérieur. Donc, oui, c'est...
Et des passages souterrains.
C'est difficile de lire un poète dans une ville telle qu'elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, toutes les villes, parce que quand aujourd'hui on n'écrit plus de poèmes sur Paris, par exemple, toute la belle poésie...
J'espère que si, franchement. J'espère qu'il y en a qui s'y collent.
Ouais, il faudrait supprimer les voitures, mais... non, mais les voitures sont vraiment partout. En fait, on est dans la circulation des automobiles. C'est même pas les voitures, c'est la circulation. On n'est plus dans un monde humain et de piétons, on est dans la circulation. Donc c'est très difficile. Et c'est très difficile de dessiner aussi une ville. Moi, quand j'ai fait mon livre « L'immense solitude », qui se passait à Turin, au début je voulais faire un film, Je voulais pas aller faire de livre, je voulais faire un film. Mais quand j'ai vu toutes ces voitures et ces enseignes, ces publicités partout, ces affiches, toute cette ville défigurée par ce qu'on appelle aussi le mobilier urbain, je me suis dit, je pourrais pas restituer ce que je ressens ou ce qu'a ressenti, par exemple, puisque à l'époque je parlais de Nietzsche, mais ce qu'a ressenti Nietzsche dans une ville baroque, de la Turin baroque, qu'il a tellement aimé. Et en fait, j'ai toujours ce sentiment, c'est-à-dire que j'aime pas dessiner des villes parce que j'aime pas dessiner des voitures, ça m'intéresse pas. Et je trouve d'ailleurs pas les voitures belles. Les premières voitures étaient belles, mais je trouve les voitures, elles se ressemblent toutes. Elles ont quelque chose de phallique qui me déplaît profondément.
Peut-être aussi parce que là vous parliez de femmes, et on sent que le genre féminin de ces deux poétesses vous a énormément apporté, Frédéric Pajac. Mais est-ce qu'on essaie de parler un peu plus avant de ce voyage que vous entreprenez en Russie? On disait pour Emily Dickinson, ça a été très différent. Finalement, vous êtes vous aussi resté dans un voyage très intérieur à l'égard de sa poésie, de son écriture, de sa vie. Pour Tsvetaeva, vous décidez d'aller sur les lieux de sa vie, de son écriture, de sa aussi de son existence politique. Ça veut dire que vous faites quoi? Vous prenez un sac à dos et puis vous prenez les différents textes et correspondances et puis vous faites une carte et puis c'est parti.
D'abord, je suis parti avec ma compagne qui est traductrice, qui s'appelle Julie Bouvard et qui est traductrice et qui est franco-russe. Donc, je suis parti avec quelqu'un qui parle parfaitement la langue.
Pratique.
Et qui connaît beaucoup de gens. Donc, on a fait un voyage à deux et on a fait un grand, grand voyage. Faut dire, c'est tout de suite un grand voyage en Russie. Et donc, quand on va d'une ville à l'autre, on est allé vraiment. On a commencé par Yelabouga, le village où s'est suicidé Tsvetaeva, pour commencer
par la mort,
par la fin. Et c'est très impressionnant. Tout est impressionnant en Russie. Ce village, au fond, a pas changé pratiquement. Les routes sont goudronnées, mais et ce qui est étonnant, on voyage en train, on voyage beaucoup en train, des trains de nuit, tout ça, et puis aussi en taxi. Le taxi est très bon marché hors des villes, donc c'est vraiment, ça coûte moins cher que le train. Donc on fait des grands trajets de 400-500 kilomètres en taxi, et là on est vraiment perdu dans l'infini, dans l'horizontalité. Et quand on arrive à Yelabouga, avec le chauffeur taxi, sait où est enterré Tsvetaeva. Elle est enterrée dans un, on sait pas où est sa tombe, mais on sait où, on connaît le cimetière, mais on sait pas précisément où est sa tombe, comme Walter Benjamin d'ailleurs. C'est toujours étonnant, les gens qui n'ont pas de tombe. Et donc, le chauffeur de taxi, il connaît Tsvetaeva. Tout le monde connaît Tsvetaeva en Russie. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que les jeunes gens récitent du Tsvetaeva à l'école. J'ai rencontré une fille qui était aux Beaux-Arts, qui disait que son professeur arrivait avec une guitare et improvisait des airs sur des poèmes de Tsvetaeva. Mais ça, on a de la peine à comprendre ça quand on vit en France. Où la poésie existe, mais enfin, elle est un peu reléguée. Et ce que j'aimais dans ce grand voyage en Russie, c'est que la poésie est partout, et pas seulement la poésie, la peinture, parce que je me suis aperçu en voyant la galerie Tretiakov à Moscou, je me suis aperçu que toute cette peinture contemporaine des impressionnistes, cette peinture russe m'était complètement inconnue, et que c'est une peinture du paysage, c'est une peinture de... Et quand je dis paysage, moi je dis l'âme, parce que c'est vraiment... L'âme est... J'ai l'impression que quand on est en France, on a un peu perdu cette notion de l'âme. Et les Russes, dans leur littérature, elle est vraiment... très importante, elle est omniprésente. Et ce mot, l'âme, revient toujours dans la poésie de Tsvetaeva. On a toujours cette âme. Et cette âme, on la trouve dans la peinture russe, avec ses grands paysages. Et c'est très difficile quand même de de peindre rien, c'est-à-dire voilà, une étendue de terre avec un ciel. Et il faut tout dire dans cet espace. Et je trouve cette peinture russe vraiment supérieure à la peinture française. Je la trouve beaucoup plus intéressante.
Ne rentrons pas dans ce genre de réflexion. Peut-être Frédéric Pajac, je voulais savoir pourquoi vous vouliez forcément commencer par la mort de Tsvetaeva.
Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne sais pas. Ça me paraissait une évidence.
Parce qu'on ne peut pas la lire sans penser à ça, par exemple. On ne peut pas la lire sans penser à la mort brutale, à son suicide, à son rapport à l'existence.
On ne peut pas lire Tsvetaeva sans connaître son destin. À mon avis, c'est pour ça que c'est intéressant de montrer deux poètes. Enfin, je dis poète, moi, parce que Tsvetaeva ne voulait pas qu'on l'appelle poétesse. Mais donc je respecte deux poètes, ou une poétesse, Dickinson, et un poète, Marina Tsvetaeva.
Malraux l'appelle poète aussi, voilà. Dickinson.
Et donc, d'avoir justement un poète qui, américain qui ne sort pas de chez lui, de chez elle, et un poète qui est toujours dans le voyage, toujours dans l'exil, toujours dans le... Donc c'était intéressant de montrer ces opposés, en fait. C'est vraiment, on peut pas trouver deux personnages aussi opposés que Dickinson et Tsvetaeva.
Et qui certainement se rencontrent sur le terrain de l'intensité quand même. C'est-à-dire qu'à la fois elles sont peut-être opposées, elles sont appartiennent pas non plus au même temps, et en même temps vous en faites aussi des sœurs, en tout cas des personnes qui font face à un rapport brûlant à l'existence.
Alors oui, et puis surtout, enfin, moi je dis qu'il y a une poésie féminine. Et cette poésie féminine, elle est très particulière en fait. C'est vrai que c'est...
Vous allez peut-être contre leur... Vous vous disiez qu'elle ne voulait pas se faire appeler poétesse, peut-être que vous allez contre leur pensée en disant qu'il y a une poésie féminine.
Non, parce que Tsvetaeva voulait être une femme dans sa poésie. C'est très important. Et ce qu'elle dit, il n'y a qu'une femme qui peut le dire. Et par contre, enfin... Il y a aussi d'autres choses qui les relient. Par exemple, l'éternité. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et l'éternité, nous, on a une vision de l'éternité chrétienne, dans le fond. Et,
religieuse, en tout cas.
Religieuse. Et ces deux poètes ont une toute autre vision de l'éternité. C'est-à-dire, elles ont une autre vision de Dieu. Et leur rapport à l'Église... Et en fait semblable, c'est-à-dire qu'elles ont les deux renoncé à l'Église, non pas à la croyance, non pas à la foi, mais elles ont renoncé au prêtre, à l'intermédiaire. Elles ont voulu avoir toutes deux un rapport direct avec Dieu, c'est-à-dire avec l'éternité.
Каким наитием, какими истинами, о чем шумите вы? Разливы лиственные, какой неистовой сивилой таинствами, о чем шумите вы, о чем беспамятствуете, беспамятствуете. Я un accent, puis il y a cinq syllabes après comme ça. Что в вашем веянии, не знаю, лечите обиду времени, прохладой вечности. Et c'est, enfin, on pourrait passer des heures à discuter sur rien que ça. Лечите обиду времени, прохладой вечности. Лечите обиду времени. Vous guérissez littéralement l'offense du temps par la fraîcheur de вечности, de l'éternité. Et vous comprenez, лечите вечности. C'est pas une rime, c'est une assonance, mais à la fois c'est une rime absolument extraordinaire. C'est un truc de Mayakovsky dans une strophe tout à fait rigide. Et alors, c'est ça qui est formidable, c'est cette espèce de... Comment dire? À la fois, c'est emporté comme... Bon, c'est le vent dans les feuilles, dans les arbres. Mais à la fois, c'est le tronc lui-même, quoi. C'est l'arbre lui-même. La strophe, c'est ça. C'est ce contre quoi on se cogne. Et c'est explosé par la rime, par les sonorités, par l'intonation. Par tout ensemble. Alors d'un côté c'est rigide, c'est soi-disant classique, de l'autre côté c'est la violence même, c'est le vent dans l'arbre et contre l'arbre, enfin je ne sais pas comment vous dire ça, comme si on comprenait un arbre comme une explosion de l'intérieur et hop ça fait les branches, vous voyez c'est ça, C'est ça une strophe de Tsvetaev. Ça vous change le monde par une strophe. Et donc dans les arbres, c'est ça qui s'est passé. Alors c'est ça qui est 1922-23. C'est un cycle qui, me semble-t-il, est une discussion avec Pasternak, auquel il a écrit un texte qui s'appelle La verse de lumière. Et le noyau des arbres, c'est le mot averse. Et si ma traduction, elle vaut quelque chose, c'est que j'ai essayé de garder ça. Que toute la sonorité vient d'un seul mot, averse. Que tout ça, c'est vert, le vert. Et c'est traverse. Ça, en français, c'est intéressant. Évidemment, c'est pas exactement comme ça en russe, mais c'est très proche. Et c'est ça. Le fait de traverser les choses. Comme le vent, comme la pluie. Et la différence, c'est que chez Pasternak, c'est un poète justement de la pluie, de l'eau. L'eau, le liquide. Tsvetaev, c'est la sécheresse. Il n'y a pas d'eau. C'est la soif.
La poésie, l'exaltation d'André Markovitch en 1991 qui rejoint celle de Marina Tsvetaeva, Frédéric Pajac, et qu'il dit, tout en retraduisant pour nous depuis le russe, c'est ce qui souffle. C'est le vent qui souffle dans les feuilles, mais c'est aussi le tronc. C'est aussi la violence pure. Et c'est très difficile, après avoir entendu Markovitch, de ne pas repenser à tous les arbres et à toutes les feuilles qu'on trouve dans ce livre-là, le tome 7 du Manifeste incertain, et à la couverture. Est-ce que c'est parce que vous avez vu ça aussi, vous? Le vent dans les feuilles et la violence qu'oppose un tronc.
Celui qui a vraiment vu le vent dans les arbres, c'est Corot. C'est Camille Corot. J'ai l'impression que j'ai aussi j'entretiens un dialogue avec Corot. Parce que je suis souvent dans la nature. Tous les dessins de nature, je les fais dans la nature. Soit au bord de la mer, soit dans une montagne. Et là, beaucoup dans une clairière ou au bord d'une rivière. Et je pense souvent à Corot parce que ce vent... en plus, le vent, on est souvent dans le vent quand on dessine en plein air. On est souvent incommodé par le vent même, parce que c'est difficile de tenir sa feuille, etc. C'est pas facile de dessiner en plein air. Évidemment, il ne faut pas qu'il pleuve et tout ça, mais moi j'ai toujours aimé, je parle de Corot, pas de sa peinture, je parle de ses dessins et de ses gravures. Et je sens le vent dans cette... Alors moi, je ne sais pas si j'en suis capable de dessiner ce vent. Je ne me rends pas compte. Mais en tout cas, j'espère qu'il est présent dans mes dessins.
Il est présent et il est... je l'ai feuilleté pendant l'archive de Markovitch. Il est aussi très proche du trouble amoureux, des tempêtes amoureuses. Là, il était question rapidement de Pasternak, mais vous reportez aussi le tumulte qu'est le rapport amoureux de Marina Tsvetaeva dans ses correspondances, dans certains de ses poèmes. Et souvent, avec ce tumulte, ce sont des images très sombres et très profondes de forêt, de presque d'humus, quoi. On peut presque sentir la nature dans ce qu'elle a de plus à elle-même. C'est bizarre, parce que ça nous en exclurait complètement, ce qui est une idiotie, mais néanmoins.
Mais la nature est une métaphore. Et dans la poésie et l'art de la métaphore aussi. Pas toujours, hein. Il y a des poésies purement sonores, purement... Enfin, c'est difficile de définir la poésie, comme c'est difficile de définir le dessin. Le dessin, c'est... Mais il y a une relation entre le dessin et la poésie.
Il y a une relation. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait un lien entre les quatrains de Dickinson et vos dessins sur la page.
Oui. Dickinson, c'est ce que j'ai dit, c'est les abeilles, pour moi. C'est les abeilles et les animaux. Chez Tsvetaeva, c'est plutôt, effectivement, la nature. Et moi, j'ai été très séduit par la Crimée, en fait, par le bord de mer, la mer Noire. J'ai trouvé cet endroit absolument magnifique et qui restait à peu près intact. Et c'est là que, à Cocktebel, c'est là que cette Eva a rencontré Sergueï Efron, qui est devenu son mari. Et c'est cette rencontre, j'avais envie d'être, pas seulement de me retrouver où elle est morte, mais où elle a connu son plus grand bonheur, où elle est tombée amoureuse. Et en fait, c'est étonnant, mais ce paysage évoque parfaitement pour moi cette rencontre amoureuse, avec ces galets au bord de mer. Et c'est une nature qui restait intacte parce que, je ne sais pas pourquoi, mais les soviétiques et les capitalistes d'aujourd'hui ont renoncé à construire sur ce rivage.
Puisque vous parlez du dessin, on va terminer cette heure d'entretien avec vous, Frédéric Pajac, en l'évoquant dans la voix de Roland Topor.
Aussi bêtement que quand on essaye à plusieurs de trouver une histoire, un scénario, etc., et on part dans l'état de direction, et on se dit une histoire d'une femme qui ferait ceci et qui ferait cela, on parle pendant deux minutes et puis on s'aperçoit que ça donne rien de bon, et ça n'est plus rien. Bon, disons qu'un dessin est souvent une histoire qui s'arrête, qui est avortée, qui s'arrête et dont la trace n'est plus qu'un dessin, parce que avant et après, le développement... c'est une autre histoire. Ça, je m'en suis aperçu petit à petit en lisant, c'est que c'était des histoires avortées qu'on pourrait développer d'une autre façon. Ça serait tout à fait autre chose. Beaucoup moins symbolique et donc beaucoup moins... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté pseudo plein de sens. Mais il est évident que, je ne sais pas, si on prenait des histoires, pas des dessins, pas de moi, mais d'autres gens... que ce soit Chaval, Bos, Goya, etc., on pourrait raconter ça, ça ferait des nouvelles... Mais ça dépend comment elles seraient écrites. Mais je veux dire qu'il y aurait un intérêt, qu'il serait autre chose.
Autre chose, des contes avortés, des pseudos pleins de sens, de dessins. On termine avec la voix de Roland Topor à cette archive, Frédéric Pajac. Ce manifeste incertain, c'est une sorte de... Comment on pourrait dire? De dialogue, de mariage, de cohabitation incertaine et certaine entre le dessin et le texte. Si vous vouliez continuer derrière Topor en essayant de dire ce que c'est que cette rencontre-là, que cette cohabitation-là, vous diriez quoi?
Moi, je dirais pas la même chose. C'est-à-dire que pour moi, le dessin et l'écriture sont deux langages complètement opposés et en fait, je dirais même hostiles. Et ils se rencontrent très rarement. Et c'est pour ça que moi, je suis contre l'illustration. Les textes illustrés m'intéressent pas en fait, ni le texte illustré ni l'illustration. Je trouve
vous
que c'est
tout en bloc.
Oui, je refuse tout parce que c'est un malentendu. Et dans mes livres, j'essaie de laisser ces deux langages antagoniques. Et parfois ils se rencontrent, mais ça c'est le lecteur qui fait cette rencontre, ça m'appartient pas. Et parfois ils se rencontrent, et parfois effectivement c'est comme une bande son qui part toute seule.
Qui serait complètement indépendante, quand vous dites parfois ils se rencontrent, oui, mais enfin ils se rencontrent aussi à la faveur de la maquette et du choix que vous faites de faire cohabiter certains textes avec certaines images. On pourrait pas faire la rencontre si vous ne les mettiez pas côte à côte.
Oui, mais il y a une part d'inconscience là-dedans. Et je dis souvent que l'écriture, pour moi, c'est la conscience. C'est-à-dire qu'il faut, je dois écrire très précisément, je dois faire très attention aux mots, alors que le dessin, pour moi, c'est l'inconscience. Je réfléchis absolument pas quand je dessine, et j'essaye vraiment d'être presque de m'abstraire de tout en dessinant. Et quand je fais le montage comme un cinéaste, quand je fais le montage entre images et texte, j'essaye plutôt de rester dans un rapport inconscient. J'essaye pas trop de me formaliser.
Et est-ce qu'il y a un des langages qui est le plus jouissif, conscient ou inconscient?
Vous voulez dire
pour vous?
Alors, pour moi, l'écriture est... Enfin, l'écriture est plus jouissive dans le sens où le dessin est presque une corvée pour moi. C'est presque une punition de dessiner. Parce que c'est tellement compliqué à faire ces dessins. Et en fait, moi, je dessine sur un laps de temps très court, sur à peu près 2 mois dans l'année. Le reste du temps, je dessine pas. Et je dessine vraiment pour faire mes livres. Et je dois dessiner vraiment beaucoup dans la journée, dans la nuit, pour arriver à faire ces presque 200 dessins pour faire un livre. Et ces 200 dessins, j'en fais à peu près 8 par jour, mais c'est vraiment jusqu'à la nausée, quoi. Alors que l'écriture, j'écris tous les jours, et puis c'est presque une récréation.
Merci beaucoup Frédéric Pajac. Manifeste incertain, tome 7, morceau 7, volume 7, on dira comme on voudra, c'est paru aux éditions Noir sur Blanc. Et donc, on pourra se procurer les autres, jusqu'au 9. Au son ce soir, c'était Philippe Mercher à la réalisation, Massimo Bellini. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr, vous abonner au podcast de Parler Temps qui court, puis diffuser cette émission autour de vous. Ça peut que faire du bien. Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Lou Quevauvillier m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Je les en remercie chaleureusement et je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.
Tu le sais, ici tout brûle. De tout temps, ici tout brûle. Et les portes et les livres, tous ceux qui portent un nom brûle. Tous ceux qui portent un nom brûle. Et comment va la vie à Paris? Comment va l'exil et la Russie, le cœur sans son toit, tu suppliais le tsar de relâcher Razin. Chaque pont traversé aura été coupé. Et les granges et les villes, tous ceux qui portent un nom brûle. Tous ceux qui portent un nom brûle. Et comment va la vie à Paris? Comment va les poèmes étouffés dans le fond du cabas? Tous les vers en saccade, freinés par l'estomac. Et l'exil Marina, t'as réussi comme on va. Et les hommes et les livres, ceux qui portent un nom brûle.